Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de Par les temps qui courent. Tous les soirs, on reçoit des artistes dans l'actualité culturelle pour une heure d'entretien avec elles et avec eux. Ce soir, un trio devenu duo Joubran.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il.
Avec Marie Rocheux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il y a des morts qui sommeillent dans des chambres que vous bâtirez, des morts qui visitent leur passé dans les lieux que vous démolissez, des morts qui passent sur les ponts que vous construirez, et il y a des morts qui éclairent la nuit des papillons, qui arrivent à l'aube pour prendre le thé avec vous, calmes, tels que vos fusils les abandonnèrent. Laissez donc, ô invités du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu'ils vous donnent lecture des conditions de la paix avec les défunts. Voilà un extrait du discours de l'homme rouge de Mahmoud Darwish, traduit de l'arabe palestinien par Elias Sambar. C'est un poème qui a inspiré les titres de votre dernier album, cher trio Joubran. D'abord parce que votre compagnonnage avec le poète est fidèle et ancien. Ensuite parce qu'il est peut-être le point de rencontre avec Roger Waters, ex-bassiste des Pink Floyd, qui est présent sur The Long March. C'est le titre de ce dernier disque qui paraît chez Sony Music. J'ai dit trio devenu duo, mais c'est juste ce soir en fait, parce qu'il est absolument trio. Bonsoir Wissam Joubran, bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup pour et cette invitation.
Avec plaisir et bonsoir à vous, bonsoir. Adnan Joubran.
Bonsoir.
Bienvenue à tous les deux, il y en a un à qui on pense, donc disons son nom.
Samir, c'est Samir l'aîné, le frère aîné. Je pense il maîtrise pas encore le français, c'est pour ça malheureusement il est pas avec nous.
Donc il a un micro invisible.
Il a un micro invisible.
Et il est là.
Il est présent à travers la musique.
Il est absolument présent et on l'entendra tout à l'heure. On peut dire que vous serez le 24 octobre au Bouffe du Nord. C'est tout à fait complet dans le festival Worldstock, mais il y a probablement d'autres concerts auxquels nos auditrices et auditeurs peuvent assister. Et il y a surtout une date qui est ouverte à Paris le 1er avril à la salle Pleyel pour se rattraper. Puis vous serez le 25 octobre au Rocher de Palmer à Senon. Le 4 novembre à Nice, le 16 novembre à Bézon et absolument presque partout dans le monde en hiver. Voilà.
Oui, heureusement.
C'est ça qu'il faut dire.
C'est ça.
On commence par la voix du poète.
La littérature de résistance, ce n'est pas seulement la parole violente contre l'action violente. La littérature de résistance prend des formes multiples. Par exemple, glorifier l'amour des gens pour la vie ou trouver des raisons à l'existence. En cherchant ce qui peut rendre la vie supportable. Il est vrai que la quête de beauté est très difficile dans de telles conditions, parce que la dureté de la réalité peut masquer la beauté. Mais la poésie et la littérature se doivent de montrer les zones de beauté dans la vie, de montrer l'amour du Palestinien pour la vie. Car notre culture est une culture de vie et pas une culture de mort. Le peuple palestinien vit dans un beau pays. Il est très heureux quand les fleurs d'amandier éclosent au printemps. Il s'en réjouit. Si l'occupation parvient à masquer la joie de cette beauté dans nos cœurs, cela veut dire que l'occupation a occupé nos âmes.
سنمضي إلى حتفنا أولا سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه وعن طيش غزلاننا سندافع عن طير فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي هذا زمان الصناعات هذا زمان المعادن من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأقوياء هنالك موتى
ومستوطنات وموتى وبلدوزرات وموتى ومستشفيات وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات وموتى يربون وحش الحضارات موتى وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات. إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك؟
Je disais en introduction que la voix qui ouvre ce disque, c'est donc celle de Mahmoud Darwish, peut-être au moins pour deux raisons, puisque le compagnonnage amical, la fréquentation de ce poète est fidèle et lointaine, et aussi parce que c'était un point de rencontre avec Roger Waters. Alors, pour vous, c'était une évidence que ça ouvrait des Long March?
Bah, c'est incroyable, parce que là, j'écoute encore peut-être pour la millième fois ce morceau, et merci aussi pour l'extrait avant.
C'était une archive de Darwish.
Archive de Darwish. C'est incroyable que chaque fois j'écoute la voix de Darwish, j'écoute Darwish, j'ai la chair de poule, en fait. Et c'est exactement, c'est comme ça qu'on travaille, qu'on décide dans cet album, il y a la voix de Darwish. Le secret, ce qu'il a écrit, c'est encore vivant. On dirait qu'il est encore vivant, il est en train de regarder tout le monde, la politique d'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il est en train d'écrire. C'est exactement ça.
C'est une rencontre qui se passe quand pour vous, la rencontre avec Darwish?
La rencontre avec Darwish, c'était il y a à peu près il y a plus de 10 ans avec le frère Samir, l'aîné, en France, en Aix-en-Provence. C'est une rencontre très, très improvisée. En même temps, c'était pas facile pour Samir parce que c'est pas Darwish qui a demandé Samir de jouer avec lui. C'était à travers l'ambassadrice Laila Shahid qui a proposé justement que la musique avec Darwish. Au début, Darwish il a refusé parce qu'il a dit la poésie c'est déjà.
C'est déjà la musique.
Il dit la musique, j'ai pas besoin de tout ça. Et Samir, elle a dit comme vous voulez. Elle a dit non, mais bon, si tu es là, on va faire quelque chose. Mais fais attention, quand je récite, quand je parle. Il n'y a pas de musique. C'est juste entre chaque poème. Et Samir, il était d'accord. Et c'est parti. Au milieu de ce récital, en fait, quand Samir il jouait le oud, Mahmoud Darwish a directement commencé de parler. Et c'était un choc pour Samir. Il a fermé les yeux, il a continué. Et c'est là qu'on a bien compris qu'il y a une alchimie. Qui a commencé, il y a une relation très très forte qui a commencé entre la musique et la poésie de Mahmoud Darwish. Ce voyage a continué avec moi, Wissam, et après avec Adnan, avec le trio. Et c'est encore vivant.
Il y a un disque qui s'est fait à l'ombre des mots, où c'était vraiment la poésie de Darwish était extrêmement présente. Est-ce que c'est aussi un homme que vous lisez, en dehors de l'écouter, d'écouter sa voix et de l'écouter dire?
J'ai l'impression en fait toujours que ce rencontre se passe toujours. On dirait qu'il est toujours vivant entre nous, à travers ses paroles, mais à travers les influences, les idéologies qu'il avait. Je me souviens très bien le jour où on a choisi ce poème pour l'album. Il y avait un morceau de musique qu'on a composé, on a dit « là, il faut la voix de Mahmoud Darwish, il nous faut le mot très direct ». Et parmi, je pense, entre 13 et 15 heures d'archives qu'on a à la maison, j'ai juste choisi cette phrase, sans savoir de quoi il parle. Et là, directement, on l'avait mis sur la musique, et tout de suite, ça a fait quelque chose. Tout de suite, il parlait d'aujourd'hui. Tout de suite, il parlait des sujets d'aujourd'hui. Donc, pour nous, même sur scène aujourd'hui, Il est encore entre nous. Il est encore il y a des on se croise avec les idéologies. Pareil comme il vient de dire dans l'archive que on est là pour donner un petit peu de beauté.
Bien sûr qu'on écoute des autres, mais quand même Mahmoud Darwish a occupé une place très importante dans notre cœur. Plein des poètes a demandé le trio de jouer la musique avec eux, etc. Partager la scène, mais c'est impossible. Voilà, on a déclaré officiellement Darwish, c'est le seul qui accompagne le trio Gebrin jusqu'à la fin. Et avec beaucoup de respect pour tous les autres, bien sûr.
Mais là, sur ce disque, on entend les mots d'autres, on y viendra, hein, mais on sent que voilà, en effet, il a une place primordiale. Vous disiez, parmi toutes les archives, justement, on se demandait quels sont ces enregistrements-là. Vous avez une sorte de bibliothèque sonore avec la voix de Darwish qui lit ses propres poèmes.
Oui, bien sûr, Samir, elle a tourné avec Mahmoud Darwish pendant 13 ans. Donc, et forcément, elle avait envie d'archiver les concerts. Donc, on a vraiment l'enregistrement des concerts, des récitals. Mahmoud Darwish et Samir. Et aussi, on est, je pense, aussi tellement fanatique de Darwish qu'on aimerait bien garder ça comme un œuvre. Et c'est avec ça qu'on vraiment on puisse travailler. Et aussi, avec son accord avant sa mort, bien sûr, on a parlé avec lui comme quoi on a envie de faire un album avec lui. Et lui, il a dit non pour tout le monde, sauf que oui, avec le trio Gibran, c'est
donc
possible
prévu,
parce que,
en fait.
Parce que, et on croit avec sa voix qu'il y a la musique déjà, il y a le rythme déjà, il y a tout. Donc, la façon qu'on met notre musique en dessus de poèmes, on gâche pas, on gâche rien de sa voix et la poème. Donc, c'est pour ça, après 40 jours de sa mort, c'était évident pour nous qu'on fasse À l'ombre des monts. Et c'était pour nous, avec un vrai autorisation de sa part, qu'on a pris avant sa mort.
Là, il y a quelque chose qui se passe, qui continue de vous lier donc avec Darwish, c'est que dans ce poème-là, vous choisissez des petits bouts de phrases, de mots qui deviennent les titres des morceaux. Ça s'est fait à quel moment de la composition? Est-ce que certains mots ont initié la composition des morceaux? Est-ce qu'en les écoutant après composition, vous avez été chercher des petits bouts? Comment ça s'est passé?
Sachant que ce morceau, il était déjà dans l'album avec sa voix. Avec tout le texte qu'on avait. En mois de février, il y avait bien sûr Monsieur Trump qui l'a annoncé comme quoi Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et nous, pour nous, comme il disait, si vous êtes qui, Monsieur le Blanc?
Dans le discours de l'homme
dans
rouge, il
hein,
faut
oui,
dire que c'est donc
oui,
un Indien qui s'adresse à l'homme blanc
à l'homme
comme étant
blanc,
l'homme
comme,
dominateur.
Et lui, comme un Native American, comme les gens originaux de l'endroit. Et vous êtes qui à me faire perdre un pays? Ça m'appartient ou moi je appartiens à ce pays? Donc on était obligé de faire sortir ce morceau avec la voix de Roger Waters. Au mois de mars. Et là, tout de suite, j'ai vu qu'il y a une vraie construction de notre album. On a pris 4 ans de composition. Donc, chaque morceau, il a pris vraiment de temps de notre période. Donc, il a pris une vraie période de composition. Donc, il y a des vraies histoires derrière chaque morceau. Et ça peut être très différent l'une de l'autre. Et c'est pour ça, à travers cette idée d'avoir la poème comme un cadre,
c'est comme la colonne vertébrale.
La colonne verticale, que vraiment ça a donné une vraiment structure pour chaque morceau, et ça a donné un vrai sens quand on a donné les titres. Ça a donné un sens qui est vraiment lié au titre, sachant que notre musique, c'est une musique instrumentale aussi, qu'on aurait bien donné un peu de métaphore dans les titres qu'on donne, parce qu'on aimerait bien toujours que le public, même quand il écoute notre musique, il vit ou il sent quelque chose dans sa vie. Donc on n'aimerait pas toujours donner quelque chose de très direct comme titre. Et ça, c'était assez métaphorique pour nous et assez structurel.
On ne va pas rentrer trop précisément dans la composition, mais tout de suite quand même, quand on entend ce premier titre, il y a la présence des nappes synthétiques très très surprenantes, très belles, qui amènent une sonorité nouvelle à ce qu'on a pu entendre. C'est quelque chose qui n'est pas uniquement pour The Long March qui ouvre l'album, qui se retrouve à d'autres endroits, vraiment amenant votre musique sur un territoire qu'on soupçonnait peut-être pas. Mm-hmm. Comment se sont invités ces synthétiseurs?
Ben, merci à Renaud Letang, le producteur musical pour cet album. C'est la première fois qu'en fait on travaille avec quelqu'un. Normalement c'est le trio et ça termine avec le trio. Cette fois-ci on voulait ouvrir un petit peu plus vers un public plus large. C'est pour ça qu'on a invité Renaud Letang pour donner ce touche justement un peu synthétique. Par contre, je crois que ça se marie très bien avec les instruments. Accorde, c'était pas facile, mais il a bien réussi et je le félicite à travers votre émission. Oui, ça donne un touche plus moderne. En même temps, c'est les sons d'aujourd'hui en fait. Si vous voulez, il y a un morceau, on attend les vagues de la mer, des fois. C'est des sons qu'on a dans la vie quotidienne. Ce qu'on vit aujourd'hui.
Vous lui avez donné des pistes ou vous lui avez dit... Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement à ce Renaud Letang?
Bien sûr, il y avait une période qu'on a vraiment travaillé sur l'album et on a fait presque une maquette. Donc quand on était arrivé vers Renaud, il a vu une maquette pré-produite. Il était étonné que c'était vraiment avancé. Mais lui, il avait la force de vraiment réécouter toutes les compositions toute nue, on va dire, et revoir les compositions de notre manière que nous, on est des rodistes, des virtuoses, donc on a envie de vraiment remplir la musique avec des complexes, avec des techniques. Mais lui, il voit ça, mais il écoute comme les gens qui écoutent sur la radio, dans des restaurants. Il a envie de vraiment faire passer la musique facilement pour les gens, même s'il était très compliqué à la base. Donc c'est pour ça qu'on a gardé cette complexité dans la musique de Trio Jobra, mais en même temps, on l'avait fait un peu légère, plus légère.
Avec les pads.
Avec les pads, avec plus, pas que les pads, aussi des percussions qui sont moins complexes, mais qui restent toujours musicales.
Et c'était difficile de se défaire, d'abandonner cette forme de complexité qui est une complexité savante aussi.
On n'a pas abandonné. Surtout, on n'a pas abandonné. Maintenant, sur scène, c'est une grande défi de jouer l'album. Sachant qu'on travaille beaucoup dans les enregistrements, mais de faire cet album sur scène,
en live.
Transformé en live, c'est aussi très, très, très difficile. Donc, de jouer maintenant tout l'album en live, c'est vraiment difficile. Mais c'est beau parce qu'on monte sur scène avec des défis, avec des challenges, des aventures sur scène. Et on laisse beaucoup d'espace, bien sûr, pour l'improvisation entre les trois frères.
La première fois où il a vu le maître de oud entrer dans sa classe, il a su directement que c'était son destin. Comme le coup de foudre. La tradition, quand il était jeune, lui empêchait d'apprendre le oud parce que c'était un instrument pour les grands. Et lui, il refusait cette idée. Il s'est montré donc au maître, il a essayé de jouer, il les a convaincus et il a commencé à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire 5e année primaire. Et donc il a trouvé une certaine âme dans cet instrument qui convient à la sienne et ça lui a poussé donc d'évoluer au fur et à mesure et puis à devenir un très grand soliste. Il ne peut pas imaginer sa vie sans oud et il donc croit que sa vie elle est dévouée à cet instrument. Le oud n'est pas un instrument de musique, c'est comme si c'était une partie de lui, une partie de son corps. Et de son âme. Le son du oud, ou le oud même, il est devenu sa voix par laquelle il exprime ses sentiments de tristesse, de joie, de colère, d'exprimer toutes les choses qu'il ressent à l'intérieur de soi-même. Voilà. Il traduit les poèmes en des images et après il construit des images, une musique.
C'est la voix traduite de Nasir Chaman, un joueur de oud irakien en 2008. L'année de la mort de Mahmoud Darwish, d'ailleurs. Pour vous, c'est quand même une autre histoire, le trio Joubran. C'est pas vraiment le coup de foudre pour un instrument lointain de vous, qui était inatteignable, que vous ne pouviez pas. C'est quand même une histoire qui ressemble à... Est-ce que vous avez eu le choix de faire autre chose?
Quasiment non. Le oud chez nous, c'est comme un membre de ma famille. C'est-à-dire, quand je suis né, j'avais mon père dans la cuisine, carrément dans la cuisine, en train de fabriquer un oud. J'avais mon frère Samir, l'aîné, 10 ans plus que moi, en train de jouer le oud. Ma mère qui était en train de chanter. Pareil pour Adnan. On est né dans une famille assez riche, voilà, dans la culture musicale, la lutherie, etc. C'était quasiment impossible, justement, d'éviter ça. Même la lutherie, et moi, Wissam, je suis la 4e génération dans la famille qui fabrique le oud aujourd'hui. Mon père, il a fait son maximum de me dire essaye de faire quelque chose d'autre, parce que c'est très difficile de vivre avec ce métier. Mais c'était plus fort que moi, j'ai adoré ce métier. Ça fait, comme il a dit Nasir, et c'est peut-être la première fois que je suis d'accord avec lui, même musicalement des fois on n'est pas d'accord, mais c'est très bien aussi. C'est notre voix, en fait. L'instrument, c'est notre voix. Ça reflète nos idées, ce qu'on a envie de s'exprimer.
Quand il dit qu'il y a eu une sorte de coup de foudre, est-ce que même si c'était inévitable, même si vous avez grandi donc dans une famille de luthiers, dans une famille de musiciens, est-ce qu'il y a quand même eu un moment donné de coup de foudre? Est-ce qu'il y a quand même eu un moment donné où l'instrument vous a ravi?
Vous savez, étant luthier, peut-être je peux préciser, quand je fabrique un instrument et que l'instrument est fini, oui, quand le son est vraiment ce que je cherche et plus, j'ai le coup de foudre, j'aime l'instrument directement, je tombe directement amoureux de cet instrument à nouveau. Je cache pas aussi, des fois j'écoute la musique à travers quelqu'un d'autre, pas que le trio Joubran. Et j'aime bien cet instrument, je tombe amoureux directement, j'ai vraiment le coup de foudre de cette sonorité qui est à travers quelqu'un d'autre, qui s'exprime à sa manière.
Il faut savoir que les fréquences sont très proches des fréquences de voix humaine d'un homme. Et surtout quand on prend l'instrument dans les bras, ça touche vraiment au stomac. Donc il y a toutes les vibrations de cet instrument avec le corps. On devient vraiment un seul, comme il disait Nasir Chama, que c'est notre voix, ça devient notre voix, ça devient notre expression, simplement façon d'exprimer nos sentiments. Et c'est vrai que moi j'ai lutté contre
d'être
jusqu'à que j'avais 16 ans. Et puis quand j'ai commencé à jouer, c'était ma façon. J'avais 16 ans, j'avais besoin de m'exprimer. À ce moment, donc quand j'ai pris le oud, c'était très facile pour moi. C'était des outils. C'est un instrument, on dit un instrument, mais c'est plutôt quelque chose de mon corps que je connaissais tellement, et il me connaissait lui-même tellement que j'ai pas besoin de me rapprocher. Et j'ai pas besoin de les rencontrer à ma vie ou de connaître ou de savoir comment on le porte. Ça y est, c'est moi, lui. Et moi, on est un seul.
Cette lutte pour, pendant un moment donné, ne pas embrasser le même instrument que les autres et éventuellement aller vers autre chose, c'est-à-dire vous jouiez d'un autre instrument, par exemple?
Si, je n'ai pas le oud dans les, comme un instrument, je ne pense pas que je vais jouer quelque chose d'autre. J'ai essayé le percussion, je joue un peu de percussion, mais ce n'est pas la même... je ne peux pas m'exprimer avec la percussion. Et j'aime bien beaucoup la flûte, mais... J'aime écouter, mais ça ne m'intéresse pas de jouer.
Je vous donne un petit exemple. Quand j'étais petit, je crois que le premier instrument que j'ai touché, c'est le oud, c'est sûrement, parce que c'est dans la famille. Mais après, c'est la guitare que j'ai vraiment touchée. J'ai joué, j'ai chanté Elvis Presley, parce que mon père, il était vraiment à fond avec Elvis Presley.
Je voulais que vous deveniez le nouvel Elvis Presley.
Comme la carrière de Elvis Presley. Même si la musique est totalement différente. Là, on parle d'un instrument traditionnel et Elvis Presley, il avait quelque chose de très, très loin. Mais voilà, c'était le rêve de mon père de voir le oud très loin. Et donc, il y a une période où j'ai joué la guitare, j'ai quitté la guitare pour le violon et le violon vers le oud. Mon père, il a fabriqué un petit oud pour moi quand j'avais l'âge de 7 ans. Mais j'ai jamais accepté ce petit oud. Je voulais toujours le grand oud, la sonorité que je cherche. Justement, le truc ici, c'est que le trio, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Tous les trois frères, je crois que... Ouais, on cherche quelque chose de très précis. Le son qu'on écoute quand on écoute le trio
c'est
aujourd'hui.
Pas vrai, moi, je cherche toujours.
je c'est sais à pas. Dire.
C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je rêve toujours. Et j'espère mon plaisir de ne jamais arrêter à rêver. Bien sûr, on a un bel succès avec le trio Joubran, mais tant que musicien, mais je sais que toujours il faut rêver, toujours il faut avoir quelque chose. Le plaisir, c'est de ne pas y arriver. Le plaisir, c'est toujours de rêver.
Vous avez en tête quelque chose qui serait quoi, votre son ou une exactitude dans l'expression de vos sentiments? Quand vous dites on cherche quelque chose, vous tendez vers quoi?
Vers, alors, si je peux m'exprimer très bien, sans ignorer le sujet, le oud, c'est un instrument traditionnel, mais...
Très ancien.
Très ancien, quasiment 5000 ans d'histoire, le oud. La musique, alors, directement, ok, la musique traditionnelle, non. Avec le trio, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'écouter la musique qui toute la nouvelle génération écoute. Je me souviens très bien quand Samir, mon frère, l'aîné, a commencé de jouer le oud. Tous ses copains et copines régulaient de lui, oh, arrête cet instrument, c'est très traditionnel, va jouer la batterie ou la guitare. C'est plus moderne. C'était pas la mode. Aujourd'hui, tout le contraire. C'est en train de vraiment de devenir l'instrument la mode. Pourquoi? C'est simplement parce qu'il y a des musiciens qui composent des mélodies qui touchent la nouvelle génération aujourd'hui. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, le trio, c'est de composer une mélodie qui parle à tout le monde, une sonorité qui dit oui, c'est aujourd'hui et c'est demain. C'est-à-dire, la tradition pour nous, c'est pas que le passé, c'est peut-être ce qu'on fait, la musique d'aujourd'hui, c'est la tradition du futur.
La ritournelle, c'est un petit air. Tralala, la la, tralala. Quand est-ce que je dis tralala? Je fais de la philosophie. Voilà. Je fais de la philosophie, je me dis quand est-ce que je fais que je chantonne. Je dis je chantonne en trois occasions. Je chantonne quand je fais le tour de mon territoire et que j'essuie mes meubles. Il y a un fond radio. Bon. C'est-à-dire quand je suis chez moi. Je chantonne quand je ne suis pas chez moi et que j'essaie de regagner le chez-moi, quand la nuit tombe, l'heure de l'angoisse. Je cherche mon chemin et je me donne du courage en chantant tralala. Je vais vers mon chez-moi. Et puis, je chantonne lorsque je dis adieu, je pars, et dans mon cœur, j'emporterai. Ça aussi, tout ça, c'est la chanson populaire. Adieu, je pars, et dans mon cœur, j'emporterai. Alors, lorsque je sors de chez moi pour aller ailleurs, mais pour aller où? En d'autres termes, la ritournelle, pour moi, est absolument liée au problème de territoire et de sortie ou d'entrée dans le territoire, c'est-à-dire au problème de déterritorialisation.
Thank you.
par les temps qui courent.
Sur France Culture, avec Marie Richeux, avec aussi le trio Jouplan.
On entend ici un extrait de votre disque The Long March, et c'est d'ailleurs le morceau qui porte le titre de votre album, Wissam et Adnan Joubran. Alors, juste avant, on entendait la voix du philosophe Gilles Deleuze dans cet archive assez connu qui est extraite de son abécédaire, où il parle des ritournelles et de quand il fait la la la. Et c'est vrai que la reprise de la phrase musicale qui arrive en début et là, dans le corps du morceau de Long March, correspond exactement à cette idée-là. C'est vraiment un la la la, c'est vraiment quelque chose que je sifflotais moi en studio. C'est vraiment ce genre de phrase qui entre à l'intérieur de nous comme un air familier. Comment est-ce que vous êtes allé chercher ce genre de phrase mélodique?
Déjà, ça me rappelle
Memphis. Est-ce que ça faisait partie de vos envies pour ce
disque-là? Bien sûr, je voulais dire que on parlait avant de ça. C'est quoi les envies ou c'est quoi qu'on cherche? Bien sûr, c'est ça qu'on cherche. Déjà, on cherche que nos mélodiques soient chantées comme la 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 la, sans savoir que c'est un oud. Déjà, les compositions, il faut qu'elles soient si fortes et si simple pour que les gens, ils sont vraiment à l'aise à chanter, à rechanter, à retenir. Et ça me rappelle mon fils aux voitures maintenant. À chaque fois, il me demande de mettre ce morceau. Et il fait simplement là, 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 là. Et c'est vrai qu'en fait, on travaille là-dessus. Ce morceau spécialement, il y avait vachement d'investissement de temps, de la composition. Et c'était très compliqué avant.
Pour arriver à cette simplicité, cette idée de simplicité.
Exact. Et maintenant, pour jouer, c'est très difficile. Toujours, c'est difficile à jouer. Il y a un jeu entre la percussion, le rythme et les notes. Mais après, je ne sais pas, tellement on travaille, tellement on passe, tellement ça passe dans nos têtes, qu'on prend après l'essentiel. Et c'est ça, c'était le travail aussi avec Renaud Letang, de prendre vraiment l'essentiel, celui qui vraiment sonne dans les oreilles, c'est les notes qui vont rester, les techniques qui vont rester dans les oreilles. Et c'est ça qu'on cherche. J'espère qu'on arrive toujours à faire ça. C'est une des défis de chaque musicien. J'arrive pas à définir comment on le fait. C'est
oui,
difficile.
C'était ma question d'après, c'était de savoir justement comment pour arriver à cette phrase musicale qui devient qui n'est pas l'unique chose qui est présente dans ce morceau. C'est très important de dire que c'est beaucoup plus vaste, mais ça devient une sorte de gimmick. Ça se trouve comment?
Je crois que le musicien ou le compositeur doivent avoir deux oreilles. Une oreille pour composer, écouter lui ce qu'il a envie de donner, et l'autre oreille c'est d'écouter. C'est l'oreille des gens qui écoutent, en fait. Et ça, c'est très difficile, avoir cette complexité.
Dedans, dehors. Quoi.
Exactement. Ça, c'est très difficile. Et peut-être on a réussi, dans ce morceau, d'avoir cet effet-là.
Il y a la voix. Il y a une voix qui chante.
Oui.
Et ça fait partie des quelques voix que vous avez invitées sur ce disque-là. Alors, on disait tout à l'heure, la voix et les mots de Mahmoud Darwish sont extrêmement importants, mais il n'y a pas que lui. Alors, je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de la rencontre pour ce morceau-là?
Le rencontre avec Mohamed Mohtamedi.
C'était très important. Mohamed Mohtamedi, c'est à travers un ami, Habib Miftah, c'est un Iranien. Et aussi, Mohamed Mohtamedi, c'est un voix iranien magnifique. Il est très, très profond. Je sais que quand on était au studio, on a cherché quelque chose de profondeur, quelque chose qui déchire, quelque chose qui donne beaucoup d'émotions. C'est ça maintenant, on cherche des émotions. On cherche pas à vraiment comprendre tous les mots, mais on cherche des émotions. Au départ, on a cherché des chanteuses de flamenco. Et on a essayé, mais ça n'a pas vraiment fait l'alchimie. Dès qu'on a essayé avec Mohamed Mohtamedi, c'était très profond. La force d'écouter vraiment la mélodie qui fasse les oud et la mélodie de Mohamed Mohtamedi, c'est aussi un autre défi qu'on avait. Je pense on a bien réussi avec Mohamed Mohtamedi, tellement il a aimé, tellement il a travaillé tout seul avec les compositions. C'est un des moments magiques de l'album.
Concrètement, ça veut dire quoi? Vous invitez plusieurs personnes et vous essayez? Vous cherchez l'émotion?
Spécifiquement pour ce morceau, on ne s'est jamais rencontré avec Mohamed Mohtamedi. Là, je veux préciser que voilà, Mohamed Mohtamedi, il a enregistré tout ça chez lui en Iran. On ne s'est jamais rencontrés. Je crois que c'est un message aussi que le trio Jubran passe, que nous, étant palestiniens, étant arabes, on a envie aussi d'être en contact avec l'Iran. Malheureusement, les pays, c'est pas toujours simple. Les autres pays faire la guerre avec l'Iran, quasiment tous les pays aujourd'hui. Et à travers cette musique, on a cassé ce mur, en fait, qui est en train de se séparer de tout le monde. Et sa voix a tellement exprimé, voilà, de la liberté, qu'est espérant d'avoir cette liberté un jour sur cette terre et de vraiment faire leur rencontre physique.
D'ailleurs, c'était très étonnant d'entendre la voix de Gilles Deleuze qui parle pas du tout de ça. Il parle de la musique populaire. Il dit, en fait, le la-la-la, c'est une question de territorialisation, c'est une question de traverser les territoires. Forcément, quand on le rapporte à votre travail, à vous, le trio Jubran, ça prend une toute autre dimension. Le la-la-la, c'est ce que je fais quand je me dis que je laisse le chez-moi, ou que je vais retrouver le chez-moi, ou qu'il est difficile de rentrer chez moi. Forcément, les échos sont assez particuliers, non ?
Ce qu'on aime ici, c'est en fait de partager. Quand le public et le musicien partagent. Sur scène, pareil, des fois, le public commence de chanter, même il n'y a pas de parole. Et ça, c'est un moment de magie, de partager ce moment musical et partager les émotions. Ça sort tout seul, en fait.
Quand tout à l'heure, dans la voix de Mahmoud Darwish, on l'entendait dire, finalement, trouver les zones de beauté, souligner les zones de beauté, c'est prouver que nos âmes et nos corps n'ont pas été colonisés. Ça veut dire que quand il y a des moments de chant, ça veut dire que quand, par exemple, vous pouvez enregistrer cet homme iranien sans qu'il puisse éventuellement vous rejoindre ou vous aller là-bas, c'est dire aussi que vos corps, vos âmes, votre musique n'est pas colonisée, n'est pas sous l'emprise.
Absolument, absolument. Quand on monte sur scène, c'est notre pays, c'est la place où on s'exprime en liberté. Et l'album qu'on est en train d'écouter, c'est toutes nos pensées. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de politique. On ne peut pas mentir à travers la musique, voilà, simplement. Le contraire, c'est la politique. Si on mentit pas, c'est un mauvais politicien. Donc non, c'est...
Pour vous, la musique, c'est le territoire de la vérité ?
C'est la vérité. La vérité, je ne sais pas si je peux dire la vérité, parce que la vérité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort que la musique. La vérité, qu'aujourd'hui, qu'il y a des morts chaque jour. Est-ce que la musique va trouver la solution ? Sûrement non. Est-ce que c'est la musique qui va ramener la paix ? Parce qu'il y a plein de monde qui dit « Ah oui, c'est très bien la musique, ça fait la paix entre les gens. » Non. Je crois que la paix, ça vient après la justice. La justice, c'est lié avec la politique. C'est c'est de voter à quelqu'un qui croit dans la paix à la fin. Ça ramène la paix. Quoique la justice, va, c'est le bon chemin. Ça, c'est la bonne politique pour moi. Et ça, c'est...
Ça n'est pas la musique.
Malheureusement, la musique... Si c'est la musique qui ramène la paix, je vous jure que je vais jouer 24 heures sur 24 heures. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on est en train de faire, oui, c'est de s'exprimer, c'est de présenter notre culture, qu'on respecte beaucoup et qu'on tient cette culture. C'est pour dire, oui, que la culture, en fait, c'est la preuve que notre pays existe, que nous, on existe. Voilà, simplement aujourd'hui, on a tout perdu. Il ne reste plus rien, en fait. On lutte avec la culture. C'est la seule chose qui reste pour les Palestiniens.
Quelle est cette longue marche qui donne le titre à votre album ?
Je pense...
Ou quelles sont ces longues marches ? Parce qu'il y en a peut-être plusieurs.
Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a le longue marche qui, depuis 1948, qu'on lutte. Et aussi, le marche, c'est le retour en Palestine. Bien sûr, sur la pochette d'album, on voit dans les yeux de chat, les femmes voilées palestiniennes de l'époque qu'ils ont quittées. Mais nous, c'est un espoir qu'ils reviennent un jour. Et le fait d'avoir un chat, aussi, ça me rappelle ma grand-mère quand elle m'a dit « Si tu mets un chat, si tu le jettes n'importe dans quelle montagne, il va revenir à sa maison. » Parce qu'il sent les traces de la maison et de son propriétaire. Donc oui, il y a cette marche. Et pour nous aussi, la résistance, la résistance par la culture, comme le disait Wissam, la résistance par l'existence, simplement. Aujourd'hui, moi je dis que je suis pas obligé d'être en Palestine pour être palestinien. Mais je suis obligé de parler en arabe avec mon fils, pour qu'il soit palestinien. je suis obligé de lui donner les saveurs de Palestine à travers la bouffe, à travers les plats, à travers la musique, à travers les poèmes. C'est ça qu'on peut être palestinien. Surtout maintenant que je sens que être palestinien, on n'est pas obligé d'être ni arabe ni palestinien. Être palestinien aujourd'hui, c'est être contre la colonisation. C'est ça être palestinien. Ça devient mondial. Ça devient un cas humain. Un Brésilien aujourd'hui, ils peuvent être palestiniens.
En embrassant cette cause politique.
Bien sûr. Bien sûr.
Adnan Joubran, quand vous dites c'est une longue marche aussi juste en existant, en faisant notre art, en composant de la musique, en la jouant, est-ce que parfois c'est une marche éreintante ou difficile ou fatigante? Ou est-ce que c'est une marche de beauté, donc une marche de jubilation?
Non, pas
et de force
Oui, bien sûr, elle est trop difficile. Elle est trop difficile parce qu'aujourd'hui on est en train d'avoir cette dilemme entre nous-mêmes, c'est-à-dire on est en train entre moi et moi-même, c'est-à-dire je suis en train de faire la musique, sauf que la musique elle doit être un symbole de beauté, un symbole de joie, un symbole de fête, sauf que il y a vraiment cette identité que je suis de Palestine. Est-ce que j'ai le droit aujourd'hui de montrer que je suis très fier? Ou est-ce que j'ai le droit d'être joyeux ou de faire la fête, de prendre plaisir, de beauté, de cette vie? C'est toujours très difficile, comme le disait au début Darwish. C'est très difficile d'avoir cette balance. Comment moi, aujourd'hui, je peux militer, je peux être militant si je suis là en train de boire un verre de vin aujourd'hui? Être palestinien, c'est déjà un job. C'est pas, it's not pleasant. C'est pas très joyeux. Ça, c'est la vérité. Être palestinien, quand on dit palestinien pour un chauffeur de taxi, ah bah dis donc, ça c'est la vérité. On n'arrive pas à être aujourd'hui un musicien de la France, de Angleterre. Voilà, que je joue pour mon amour. J'ai fait cette simple lyrics. Et c'est ça, les paroles, je parle de ça, c'est très direct, c'est très simple, c'est ça.
Et parfois, vous aimeriez que le trio Joubran soit considéré comme un... D'ailleurs, moi, je sais pas si je colle nécessairement votre musique à cette culture palestinienne. Oui, probablement, mais surtout de la musique comme de la musique, comme de la beauté, comme de l'amour.
C'est ça qu'il a dit, Mahmoud Darwish, il faut pas être un musicien palestinien, il faut être musicien de la Palestine. C'est-à-dire, il faut faire la musique d'abord, parfaitement. Il faut être parfait avec ce qu'on fait. D'ailleurs, on vient de la Palestine avec grande fierté, ça c'est sûr.
Mais ma question, si la Palestine est libre aujourd'hui, imaginez que la Palestine est libre, il n'y a pas d'occupation. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, la musique, on va continuer la musique. Mais croyez-moi qu'on va chercher une autre cause pour défendre. Parce que l'humanité aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre.
Comme Roger Waters.
Comme Roger Waters, c'est un artiste militant. Et oui, les musiciens, les peintres, etc. Toujours, il faut avoir un message. Il faut porter un message, n'importe quel message. C'est-à-dire, c'est pas que le trio. Je vous donne un petit exemple qu'on a fait aussi en Palestine il y a 2 ans. On a fait un concert, ça s'appelle le Marathon. On a joué 12 heures sur scène, à partir de 10 heures de matin jusqu'à 10 heures de soir. 12 heures. C'est pour avoir des fonds pour une association de cancer du sein. Et on a réussi d'avoir 1 065 000 $. C'est pour acheter un camion pour faire les tests, les examens.
Les mammographies.
Mammographies pour les femmes. Et ça n'a rien à voir avec la politique, ça. C'est-à-dire, on est obligé de quand même porter un message.
C'est parce que vous décidez que la musique, c'est le lieu de ça. Je pense qu'il y a plein d'artistes pour qui la question de la musique n'est pas nécessairement accolée avec une cause. Peut-être que vous vivez les
choses
de cette
manière-là. Mais moi, je trouve que c'est un devoir quand même. C'est pas que penser à nous et être égoïste, mon succès, etc. À la fin, ok, j'ai énormément de succès. J'ai vendu des millions des albums. J'ai beaucoup d'argent. Et alors, après,
toujours, il y a une inspiration,
comment je peux partager
ce
succès avec les autres?
Il faut avoir une inspiration pour chaque phrase musicale. C'est-à-dire, moi, j'ai un morceau avec un autre album que j'ai fait. C'est pour mon amour. Le moment que je l'avais rencontré. et j'adore ce moment, et j'adore cette musique, j'adore les côtés. À chaque fois que j'écoute cette musique, je sens que je suis très fier de ce moment, quand j'ai composé, que j'ai vraiment senti le moment. Et bien sûr aussi, quand on a joué le marathon, à chaque minute des 12 heures sur scène, on a vraiment senti la douleur de notre corps. Mais si on le compare avec la douleur que les femmes passent avec ce maladie, ah non, on va rester ici, on va lutter, on va vraiment donner tout ce qu'on peut, au moins pour ce cause. Donc bien sûr, c'est une inspiration. Soit c'est une cause d'amour, soit c'est une cause politique, soit c'est une cause pour le cancer. Bien sûr, c'est une inspiration. C'est une motivation pour être honnête avec l'instrument et donner quelque chose.
La jubilation, c'est le risque et l'aventure. Le ravin, le funambule. C'est extraordinaire. C'est une musique naturelle. Tous les musiciens, j'oserais dire, étaient improvisateurs. Au siècle passé, tous. Ils jouaient avant tout d'un instrument. Et la musique est avant tout instrumentale, dans toute culture. Après arrive, selon les monarchies, les époques, l'écriture, ce qui reste et doit être obligatoirement ou pas joué. L'improvisation ne peut être jamais rejouée. Donc c'est un état magnifique, spirituel même parfois, qui pourrait toucher la transcendance. La musique, on la suit. Et elle devient, les doigts même y vont tout seuls, si c'est l'instrument à cordes ou quoi. Et quand on sait ça, c'est un travail de forme et de structure et donc de composition, attention. Hein. C'est pas youp la boum, je suis libre, tac tac, la vie est belle, pouet pouet. Non, 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 d'abord la vie n'est pas brillante en ce moment, tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est un travail de musique écrite spontanément. C'est pour ça qu'elle est chambriste, chez moi. Hein. Elle s'écrit dans l'instant. Elle est risquée, mais elle a toutes et les mêmes ingrédients que la composition. C'est pour ça qu'elle est chambriste. On s'entend mieux à deux ou à trois. Déjà à quatre, tu sais pas avec qui tu es. Et c'est un travail énorme. L'improvisation ne s'improvise pas.
C'est la voix de Joël Léandre qui était à ce micro au printemps dernier, en 2018, pour parler d'improvisation, de composition. Elle travaille avec la contrebasse et elle dit « Bon, c'est aussi pour ça, c'est pour sentir de manière très très proche qui joue avec moi, que je joue avec très peu de personnes. » Est-ce que vous imaginez jouer avec beaucoup plus de personnes que le trio Joubran? Et est-ce qu'il y a dans cette formation de trio, bien sûr la fraternité, bien sûr le fait que vous faites partie d'une famille, mais aussi l'idée que comme ça, vous vous entendez bien ? Au sens vraiment de l'oreille.
On suit nos sentiments, en fait. On décide rien. Vraiment, on improvise, comme elle a dit. On improvise, mais on n'improvise pas l'improvisation. C'est-à-dire, pour nous, le point de départ, c'est le silence. On ne peut pas jouer la musique sans silence. Et même quand on joue la musique, on cherche le silence. La musique, ce n'est pas les notes. Ce n'est pas 1, 2, 3, etc. Et le rythme. C'est vraiment l'espace entre les notes. C'est ça qui compte chez nous.
C'est très difficile à reparler après
elle,
parce que,
ouais, ah, si,
parce que
faut,
c'est magnifique, vraiment, la façon qu'elle a expliqué, c'est exactement ce que je sens.
Quand elle dit, par exemple, que c'est les doigts qui suivent la musique,
déjà ce qui se passe dans la tête, c'est énorme. C'est la composition qui se passe dans la tête. Et à chaque fois, je me souviens, après chaque concert, où Sam et Samir, elle dit, mais ton improvisation, c'était un peu bordélique aujourd'hui. J'ai dit, oui, peut-être, mais parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, que je suis en train de composer en même temps, que mes doigts se passent là et là et là et là, et j'ai pas peur de faire des fautes.
Vous n'avez pas peur?
Non, jamais. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes devant le public. C'est là le moment. Soit on donne quelque chose de magie aujourd'hui, soit jamais.
En tout cas, on essaye. C'est ce que dit Joël Léandre. Il faut absolument aller au bord du ravin, quoi.
Exact, exact.
Mais il y a de limites quand même.
Il y a de limites parce que quand on est vraiment, c'est vrai, là, quand on est avec quelqu'un d'autre, avec Wissam et Samir ou plusieurs, il faut vraiment donner des signes pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça, Wissam et Samir, des fois, elles me disent, mais on a lâché le oud, on t'a laissé tout seul,
on a
rien compris.
C'est ça la difficulté, justement, quand on joue avec plusieurs musiciens. Donc, plus de musiciens, il y a plus de risques, il y a plus Oui.
Bien sûr, mais comme elle disait.
Tout à l'heure, vous disiez, oui, à partir de 4, on entendait Joël Léandre dire à partir de 4, on ne sait plus très bien où on est, et vous disiez oui de la tête.
Bien sûr, bien sûr. C'est difficile. Déjà, à 3, c'est difficile. À 2, on peut parler 1, 2, 1, 2. Mais à 3, déjà, c'est très difficile. Je me souviens, ma partie comme 3e au début de trio, c'était très difficile.
D'arriver comme le
troisième. Je suis arrivé, Wissam est déjà là depuis des années et des années. Wissam et Samir, ils sont déjà là sur scène depuis 2-3 ans. Donc il y a la complicité. Et il y a quelque chose qui marche déjà. Et ils ont des identités différentes, déjà très différentes de toutes les autres joueurs de
Et en plus, entre eux.
Entre eux, en plus. Donc moi, je dois être différent de Wissam et différent de Samir.
Et en même temps, différent, mais quand même capable de communiquer de manière extrêmement fine.
Bien sûr, de faire quelque chose de nouveau, de chercher quelque chose de différent qui colle avec les deux autres, qui crie quelque chose qu'on dit que c'est un seul musicien. Donc cette rôle, c'était très difficile pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça, toujours, moi, je cherche, toujours, je... Mon travail, c'est d'oser, d'expérimenter, d'essayer, et c'est ça le plaisir.
Est-ce que vous avez l'impression que vous parlez tous les trois lorsque vous jouez du oud, tous les trois, le trio Joubran?
Oh là, quand on parle, c'est une catastrophe. Il faut mieux jouer.
Sans les ouds.
Sans les ouds.
Et quand vous parlez avec les ouds, donc sans les mots,
ah, c'est
ça marche mieux.
C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, surtout sur scène. Les gens nous demandent, mais quand vous répétez avant le concert, vous avez le temps. Non, on répète jamais. En fait, juste quand on compose, on joue la musique. Après, c'est fini. On monte sur scène, on joue. Il n'y a pas de répétition. On fait le son, on fait le concert. Et le plaisir, elle est là. Que chaque concert est différent que l'autre. On improvise beaucoup. On improvise avec le public qui est différent. À un pays ou l'autre, c'est différent.
Et vous diriez pareil, Wissam Joubran, que vous n'avez pas peur? Que le moment où vous improvisez, vous vous dites... Très bien, je vais traduire exactement ce qui passe dans ma tête.
J'ai jamais pensé peur ou pas peur, mais croyez-moi que quand je monte sur scène, avant de monter sur scène, bien sûr, il y a un type de
concentration, de trac.
Angoisse peut-être, oui, un peu inquiétude, etc. J'aime beaucoup en fait le bruit de public avant d'entrer, ça me rassure. Quand j'écoute que la salle est complète, ça me rassure, ça me fait plaisir. Et quand je monte sur scène... et je prends l'instrument et que la lumière se baisse, et c'est là je dis c'est à moi, c'est moi, et c'est le moment, peut-être c'est peut-être le dernier moment de ma vie, donc je donne tout ce que j'ai sur scène.
Et, mais dans le corps du morceau, quand c'est le moment de parler plus en son nom, quand c'est le moment de signer une phrase vraiment
moi voilà, je peux dire à la place de Wissam que Wissam c'est le meilleur improvisateur au studio. C'est-à-dire quand il y a un morceau, il y a un endroit où il faut vraiment avoir une improvisation qui déchire.
C'est lui que vous appelez.
C'est lui. Wissam est juste seulement la première prise. Oui, non, prise, il vient et il fait tout. Soit le plus simple, soit le plus compliqué.
Mais toujours le plus honnête, alors, si on vous suit. Je disais tout à l'heure, il faut toujours que ce soit le plus honnête.
Tout le monde honnête. Il n'y a pas de quelqu'un qui, comme j'ai dit, on ne peut pas mentir à travers la musique. C'est juste que chacun, il s'approche différemment. Chacun a ses qualités et a sa couleur aussi, chacun. Il porte une couleur dans ce trio. C'est ça qui fait le beau tableau.
Il faut aussi dire que, grâce au trio Joubran comme projet musical, maintenant qu'on connaît l'un l'autre comme frère, moi, je peux dire que je ne connaissais pas avant Samir, parce qu'il y a 12 ans de différence entre moi et lui. Donc, quand j'avais 5 ans, il était à la maison.
Faire de la musique, c'est aussi apprendre à vivre ensemble, en fait, même à l'échelle des
connaître
trois frères que vous êtes.
Connaître l'autre et vivre ensemble et voir l'autre. Parce que je pense, si maintenant il n'y a pas le projet de Trio Joubran, je vois Wissam et Samir très rarement.
Vous diriez que c'est pareil, que vous avez aussi appris à connaître vos frères en jouant de la musique avec eux, Wissam?
Oui, je crois que oui. Je suis d'accord avec Adnan, absolument.
Une manière de les écouter différemment?
Oui, chacun a sa personnalité et il faut comprendre cette personnalité. Trois compositeurs, quand même, c'est pas facile. Imaginez une phrase qu'on est en train de composer tous les trois, chacun a ses idées et qui défend ses idées. Il y a l'ego de chacun aussi. À la fin, ok, il y a une composition pour un morceau que tout le monde va écouter. Et s'il n'y a pas d'ego, à la fin, il y a une décision qui doit être prise par les trois. Et il n'y a pas de, aussi moyen de dire oui, un petit peu de là, un peu de là. Et on fait le. Non, non. Des fois, il y a une décision radicale. Des fois, il y a trois idées magnifiques, mais il faut tuer deux idées pour avoir une idée. C'est très dur, absolument, mais voilà, c'est ça la musique.
La musique est un art du temps. La musique se dérobe à mesure qu'elle se déploie. Elle nous échappe et en même temps elle nous touche profondément. Mais elle nous touche à mesure qu'elle fuit, qu'elle s'enfuit. Donc elle est en quelque sorte la version sonore du temps. C'est du temps sonore, hein, du temps qui nous accompagne et qui en même temps se dérobe, s'enfuit. Et au fond, le poème ou la littérature d'ailleurs en général, c'est aussi un art du temps.
La musique comme un art du temps qui se dérobe et qui s'enfuit. C'est la dernière archive qu'on écoute avec vous, Adnan et Wissam Joubran. Est-ce que vous diriez que votre musique est aussi un art du temps? Tout à l'heure, vous disiez, c'est ce temps de silence entre chaque note que nous jouons et que nous écrivons. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là?
J'ai jamais entendu ça, et ça me fait réfléchir. Donc, j'arrive pas à maintenant à prendre le temps à dire quelque chose. Mais soit c'est complètement, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le temps, il s'arrête quand il y a une note. Et il faut pas...
C'est qu'une sorte de suspension ou d'infini,
bien sûr,
quoi.
Bien sûr. Pour moi, quand j'écoute la musique, je sens plus le temps qui se passe. Et il faut pas vraiment mesurer, pour moi, hein, il faut pas mesurer le temps avec la musique. Sachant qu'avec le trio, il y a des morceaux qui durent 20 minutes et il y a des morceaux qui durent 1 minute et demie.
Mais ça veut pas dire grand chose, en fait. Ça veut dire quelque chose sur un disque.
Si on a dit l'histoire, si le message est passé, si l'histoire est passée, si les sentiments ont passé, ça y est. C'est pour ça que je dis, pour moi, quand on joue, quand j'écoute la musique de quelqu'un d'autre, le temps est suspendu.
Merci beaucoup à tous les deux et donc merci au trio Joubran parce que vous étiez deux, mais vous étiez en fait trois. Le titre de cet album s'appelle De Longue Marche et on mettra toutes les dates de concert sur le site internet de l'émission. Au son ce soir, c'était Cédric Châtelut à la réalisation Charlotte Roux. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, quand vous voulez sur franceculture.fr. Vous pouvez trouver les titres des musiques et des archives qui ont été diffusées, plein d'informations, la possibilité de réécouter et aussi de vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Jeanne Aléos, Lou Quevauvillé, Anna Baron, Romain Debec de Lièvre et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.